Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Rennes et vous écoutez le Labomatique, l'émission Science et Recherche. Nous avons tous l'image d'Épinal, du mathématicien devant son tableau essayant de résoudre une équation au concept abstrait. Pourtant, la recherche en mathématiques s'étend à de nombreux domaines. Les progrès réalisés en mathématiques appliquées sont indispensables pour d'autres disciplines, comme va nous le montrer notre invité du jour. Rosaine Texier-Picard est mathématicienne à l'ENS Rennes au sein du laboratoire IRMAR, l'Institut de recherche en mathématiques de Rennes. Elle travaille notamment sur les équations de réaction-diffusion. Vous ne savez pas ce que c'est ? Tant mieux, elle est là pour nous l'expliquer étape par étape.
Je voudrais commencer par un exemple simple pour poser les choses par un petit modèle. Je propose de s'intéresser à une population de papillons, c'est la saison. Alors, imaginons donc que des entomologistes découvrent des papillons jusque-là inconnus dans une région en 2014, et on voudrait savoir comment cette population de papillons va évoluer au cours du temps. Est-ce qu'elle va grandir ? Est-ce qu'elle va se stabiliser ? Ou est-ce qu'elle va peut-être s'éteindre ? Alors, le premier modèle mathématique qui a été proposé pour répondre à ce genre de questions date de la fin du 18e. Il est dû à un économiste qui s'appelle Thomas Malthus. Et c'est un modèle très simple qui consiste à estimer donc, la natalité et la mortalité en fonction de la taille de la population. Donc dans le cas des papillons, on peut imaginer que chaque femelle va pondre 200 œufs, c'est réaliste pour la plupart des espèces, et ces œufs donneront naissance à de nouveaux papillons. Donc on va prendre en compte, pour étudier l'évolution de la population, on va prendre en compte à la fois les naissances et puis la mortalité, sachant que donc pour des papillons, les générations ne vivent qu'une année, donc tous les individus vont mourir à la fin de l'année.
Du coup, on a une multiplication de la population chaque année.
Voilà, donc on va étudier en fait l'accroissement de la population au cours de l'année, ou en tout cas la variation de population, en prenant en compte la natalité et la mortalité. Alors le modèle de Malthus considère que la natalité et la mortalité vont être proportionnelles à la taille de la population. Par exemple, supposons que nos femelles vont pondre 200 œufs. Si tous ces œufs donnent naissance à des chenilles qui se développent en papillons adultes, on va avoir donc, au bout d'une année, enfin, le nombre d'individus qui vont naître, qui vont se développer au cours de l'année, sera égal à 200 multiplié par le nombre de femelles qu'on avait dans la population de départ. Donc si on part d'une population de 20 individus avec 10 femelles, on va avoir pour l'année 2015 10 fois 200, c'est-à-dire 2000 nouveaux papillons.
Donc là, ça marche dans un monde parfait, on va dire, où du coup toutes les larves vont donner naissance à des papillons.
Voilà, donc si on regarde sur des temps longs, en imaginant que ces nouveaux papillons vont être moitié mâle, moitié femelle, l'année suivante, chaque femelle pondrait à nouveau 200 œufs, et la population chaque année va être multipliée par 100, c'est-à-dire 200 fois un demi, puisque la moitié des papillons sont considérés être des femelles. Alors c'est évidemment peu réaliste, hein. On atteindrait très vite des populations énormes. En 10 ans, la population serait multipliée par 100 milliards de milliards. Évidemment, ça ne se passe pas comme ça dans la réalité.
On serait dominé par les papillons. Mais donc du coup, voilà, il manque certains facteurs en fait, ne sont pas pris en compte dans ce modèle.
Voilà, alors on a évidemment sous-estimé la mortalité. On a considéré que nos individus de la génération 2014 vont mourir, mais tous les œufs qui ont été pondus ne vont pas non plus donner naissance à des individus viables. Les chenilles peuvent se faire manger, les œufs eux-mêmes peuvent ne pas éclore. Peut-être que sur les 200 œufs pondus, seuls une dizaine vont donner naissance à des papillons adultes. Donc au lieu d'être multiplié par 100, la population sera multipliée seulement par 5. Il n'empêche que ce modèle est toujours peu réaliste sur du long terme, parce que si la population est multipliée par 5 chaque année, finalement le comportement est de même nature. C'est ce qu'on appelle une croissance exponentielle, et ça n'est pas réaliste sur des temps longs.
Vous disiez que Malthus est un économiste, et donc là on applique un modèle économique sur un modèle dans de la biologie, donc peut-être que ça ne s'adapte pas en fait à la...
En fait,
réalité.
Malthus a écrit ce modèle pour étudier des populations humaines. En fait, il s'intéressait à la pauvreté et à comprendre comment l'évolution de la population pouvait être mise en rapport avec l'évolution des richesses. Donc c'était un modèle qui pouvait s'appliquer. La difficulté, c'est que ce modèle peut être valable sur des temps courts. Et d'ailleurs, les biologistes peuvent l'utiliser sur des populations, par exemple, de bactéries. Dans les cultures, ce modèle est assez correct sur des temps courts, mais pas sur des temps longs. Pourquoi ? En fait, ce qui cloche dans ce modèle, c'est que le fait que la natalité et la mortalité soient proportionnelles à la taille de la population. C'est-à-dire que le nombre d'œufs viables par femelle est supposé constant. C'est ce qu'on appelle en mathématiques un modèle linéaire. Mais ces modèles linéaires, sur du long terme, ne sont pas satisfaisants. Parce que plus la population est grande, plus on va avoir de compétition entre les individus. Par exemple, pour se nourrir. On peut aussi avoir des épidémies qui vont augmenter la mortalité. Et chez certaines espèces, il y a aussi des phénomènes d'autorégulation qui font que la natalité diminue quand la population devient nombreuse. Donc il faut considérer que le nombre d'œufs pondus par chaque femelle, le nombre d'œufs viables, va dépendre de la taille de population. Donc on introduit ce qu'on appelle un modèle non linéaire. Et le premier à avoir été proposé, c'est le modèle de Verhulst en 1836, qui considère que le nombre d'œufs viables pondus par une femelle va être une fonction linéaire de la taille de la population, c'est-à-dire qu'il va décroître lentement quand la population augmente.
Donc voilà, qu'est-ce qu'un modèle non linéaire en fait ?
Un modèle non linéaire, c'est un modèle dans lequel en fait on n'a pas de proportionnalité entre les causes et les effets. C'est-à-dire ici, pas de proportionnalité entre la taille de la population et son taux et son accroissement. Voilà. Et donc avec le modèle non linéaire, on va avoir des comportements plus riches et plus réaliste, c'est-à-dire que la population ne va pas croître exponentiellement. Elle va pouvoir souvent se stabiliser, ou parfois on peut observer des comportements plus étonnants, comme une population qui oscille d'une année sur l'autre entre deux valeurs différentes.
Et ça, grâce au modèle, on voit ça sur les modèles, en fait.
Voilà, en simulant le modèle, on obtient, ou on peut même le montrer mathématiquement, qu'on va avoir ce type d'oscillation.
Mais du coup, est-ce que ces modèles sont adaptés à tous les types de populations ?
Alors, ces modèles qu'on a considérés sont ce qu'on appelle des modèles discrets, c'est-à-dire qu'on regarde la taille de la population année après année, donc à des intervalles de temps réguliers. C'est bien adapté pour des populations d'insectes qui ont un cycle de vie et de reproduction qui est basé sur l'année et sur les saisons. Mais ce n'est pas le cas, par exemple, chez les humains. Donc, il faudrait considérer des modèles où le temps n'est pas étudié année après année, mais le temps est continu, il varie, on s'intéresse à la population chaque jour, chaque heure, chaque minute. Donc, la population devient une fonction du temps. Et dans ce cas, la difficulté, c'est qu'au lieu de considérer un accroissement sur une année, on va considérer des accroissements sur des temps courts, des mois, des jours, des heures, on pourrait même en fait faire prendre des temps de plus en plus courts, et dans ce cas, l'accroissement, la vitesse d'accroissement va correspondre à la dérivée de notre fonction taille de population.
Alors justement, vous parlez de dérivée, donc peut-être que certains d'entre nous ont encore des souvenirs du lycée. Vous pouvez dire quelques mots sur ce qu'est une dérivée ?
Alors je pense qu'une bonne façon de comprendre la dérivée, c'est de penser à une vitesse. Imaginons qu'on conduit une automobile et qu'on fait par exemple 100 km en une heure. Donc on a une vitesse moyenne qui est de 100 km par heure. Mais cette vitesse moyenne, évidemment, on n'a pas roulé pendant tout notre trajet à la même vitesse. Donc c'est seulement une moyenne. On pourrait faire des moyennes sur des temps plus courts. Et on peut même en fait regarder la vitesse instantanée, c'est celle qui est affichée par le compteur de vitesse de la voiture. Cette vitesse instantanée, c'est exactement la dérivée de la distance parcourue par rapport au temps.
Donc de la même façon, on peut voir la vitesse instantanée d'accroissement d'une population.
Exactement. C'est un modèle mathématique, c'est-à-dire que la vitesse d'accroissement, ça va être, si vous voulez, on dit que c'est une limite de l'accroissement moyen divisé, de l'accroissement sur un temps court divisé par la durée. Et on regarde cette limite-là quand la durée est de plus en plus petite. De la même façon que quand on calcule la vitesse moyenne d'une voiture, la vitesse instantanée d'une voiture, on va calculer la limite sur des durées de plus en plus petites de la distance parcourue divisée par la durée.
Du coup, dans les modèles qu'on parle depuis tout à l'heure, uniquement le temps en fait, est pris en compte. Et pourtant, on sait très bien que la population va évoluer également spatialement. Et comment on peut prendre ça justement en compte ?
Alors, vous avez tout à fait raison. Il faut, dans des modèles réalistes, prendre en compte l'espace, hein, puisque, par exemple, pour échapper à la surmortalité, si la population devient trop nombreuse, les individus vont avoir tendance à se disperser. Donc, les femelles vont aller pondre leurs œufs un peu plus loin pour que leurs larves aient suffisamment de nourriture. Alors, comment le prendre en compte ? Là, ça devient... On va passer sur une classe de modèles plus complexe, des modèles à plusieurs variables. On va avoir la variable temps et puis les variables d'espace, par exemple la longitude et la latitude. Et la difficulté, maintenant, ça va être de modéliser mathématiquement la dispersion des papillons.
Mais voilà, comment on peut modéliser cette dispersion ?
Alors, assez étonnamment, on peut rapprocher cette question des phénomènes qui, en apparence, n'ont pas vraiment de rapport, qui sont les phénomènes de diffusion de la chaleur ou de diffusion moléculaire. La diffusion de la chaleur a été modélisée au début du 19e siècle par le mathématicien et physicien français Joseph Fourier. Il a proposé un modèle pour décrire donc, la propagation de la chaleur dans un matériau. Et ce modèle fait intervenir cette fois-ci des dérivées en espace, dérivées de la température. Et ça repose sur un opérateur qui s'appelle le Laplacien, en hommage à Pierre-Simon de Laplace, je me mélange dans les prénoms, qui était un mathématicien et physicien contemporain de Fourier.
Quel est le rapport entre la propagation de la chaleur et celle d'une population ?
Alors, en fait, ce qu'on peut voir, pour faire une analogie, c'est que la chaleur va se propager naturellement des régions chaudes vers les régions plus froides. C'est-à-dire que le flux de chaleur va dirigé en sens inverse des variations de la température, de ce qu'on appelle le gradient de température. Alors, pour une population de papillons, en fait, on a le même phénomène, c'est-à-dire que le flux de papillons, la tendance à se disperser, va être en sens inverse du gradient de la population, c'est-à-dire les papillons vont avoir tendance à se disperser des zones très peuplées vers les zones moins peuplées. Donc, en fait, on retrouve le même phénomène que pour la diffusion de la chaleur.
Donc là, du coup, vous devez prendre en compte à la fois le temps et l'espace.
Voilà, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un modèle qui fait intervenir juste une dérivée en temps, on va avoir maintenant des dérivées en temps et des dérivées en espace. Donc on appelle ça un modèle d'équation aux dérivées partielles. On parle de dérivées partielles quand on a plusieurs variables et qu'on dérive par rapport à ces différentes variables.
En fait, ce modèle d'équation aux dérivées partielles correspond aux équations de réaction-diffusion sur lesquelles vous travaillez.
Alors, on arrive maintenant exactement à une équation de réaction-diffusion, c'est-à-dire que la vitesse d'accroissement de la population, donc qui est mathématiquement notre dérivée en temps, va s'écrire comme la somme de deux termes, un terme de diffusion qui modélise la dispersion de nos papillons, qui fait intervenir donc cet opérateur laplacien, et puis un terme non linéaire, comme celui qu'on avait proposé au départ, qui prend en compte donc la natalité et la mortalité. Alors ce terme non linéaire, on va l'appeler un terme de réaction, et donc on obtient une équation de réaction-diffusion.
En physique, pour la diffusion de la chaleur, et également en écologie, mais on peut l'utiliser dans plein d'autres domaines, en fait.
Exactement. Les équations de réaction-diffusion interviennent dans beaucoup, beaucoup d'applications. Au départ, c'est effectivement pour des phénomènes chimiques qu'elles ont été développées, donc pour décrire l'évolution, par exemple, de la température au cours d'une réaction chimique. Donc le terme de diffusion modélise le fait que la température, donc que la chaleur se diffuse dans le matériau. Et puis le terme de réaction modélise la chaleur qui est produite ou consommée par la réaction. Donc c'est de là que vient le nom réaction-diffusion. Mais en plus de décrire l'évolution de la température au cours d'une réaction, ces mêmes équations peuvent décrire aussi l'évolution des concentrations des différentes espèces. Voilà, donc beaucoup d'applications en chimie. Et plus récemment, d'autres types d'applications ont été proposées. Par exemple, des chercheurs israéliens et français travaillent actuellement sur l'utilisation de ce type d'équations pour décrire l'organisation de la végétation dans les milieux arides. Et ils ont des résultats très intéressants qui montrent que, en fonction de certains paramètres, la végétation peut s'organiser de façon différente et on retrouve des types de végétation qu'on observe sur le terrain, par exemple des formes de brousse tigrées ou des milieux désertiques.
Avec moi, la lumière dans les cheveux, celle des gens pas heureux, dans la ville qui accourt. J'ai ma place dans que dalle, j'ai la dalle des beaux jours. Sur le nerf absolu, je vis ton flux tendu. Et je vois avec deux jeunes yeux désœuvrés que le temps passe comme un train. Dans mes mains, y a rien. Je m'en amuse, mon amour, que t'en disent des jurons. Je ne reste que friandise dans le fond d'un jupon.
C'était Odezen avec le titre Rien. Vous écoutez le Labomatique sur Radio Campus Rennes et nous sommes toujours avec Rosaine Texier-Picard, mathématicienne à l'ENS Rennes, pour parler mathématiques appliquées. Après avoir évoqué dans la première partie l'évolution de modèles mathématiques et de leur application, comment expliquer justement que ces modèles fonctionnent dans des domaines si bien différents comme la biologie ou la chimie ?
Alors, en fait, c'est que finalement, même si les domaines d'application sont très différents, les phénomènes sont assez proches. Hein, on a parlé tout à l'heure du phénomène de diffusion. C'est quelque chose qui est assez naturel et qui existe dans beaucoup d'applications. Ces modèles sont aussi utilisés en médecine, pour modéliser en particulier des propagations d'ondes nerveuses ou d'ondes de dépolarisation dans le cerveau. Ces modèles sont utilisés même par une mathématicienne américaine actuellement qui cherche à modéliser la répartition des criminels dans la ville de Los Angeles. Donc c'est un travail très sérieux en collaboration avec la police, les services de police de Los Angeles. Voilà, alors après, évidemment, ces modèles, le fait qu'ils puissent s'appliquer dans beaucoup de situations, c'est aussi lié au fait qu'ils sont très souples. Le terme de réaction, on a proposé ici une forme linéaire, une forme non linéaire, mais on peut imaginer plein de formes possibles. Donc ça permet de reproduire énormément de situations de la vie.
Je suppose que ces modèles ne sont pas suffisants. Si on prend l'exemple des papillons, il faut prendre en compte aussi les interactions que peuvent avoir cette espèce avec d'autres espèces d'insectes ou non dans leur environnement. Il faut donc intégrer ces facteurs dans le modèle.
Alors tout à fait, c'est-à-dire qu'on a parlé pour le moment d'une seule équation qui modéliserait l'évolution d'une population de papillons, mais évidemment il faut prendre en compte les interactions avec d'autres espèces. On peut avoir des prédateurs qui vont manger les chenilles, on peut avoir différentes interactions possibles, et donc la plupart des recherches aujourd'hui concernent pas une équation simple, mais un système d'équations qui vont décrire donc les évolutions de différentes espèces simultanément.
Donc là, on peut ajouter autant d'équations qu'on veut, en fait, suivant le nombre de facteurs qu'on veut ajouter au modèle.
Sur le principe, oui. Après, en pratique, le plus souvent, on n'en ajoute pas trop pour deux raisons. D'abord parce que si on a énormément d'équations, par exemple, c'est vrai qu'on peut être tenté pour un modèle en écologie de vouloir de prendre en compte beaucoup d'espèces animales et végétales parce qu'on a énormément d'interactions entre toutes ces espèces. Mais la difficulté va être de décrire correctement toutes ces interactions. On va avoir du mal à estimer tous les paramètres du système et du coup, on ne saura plus vraiment en tirer de conclusions. La deuxième raison pour un mathématicien ou une mathématicienne, c'est que évidemment plus on a d'équations, plus le modèle risque d'être difficile à analyser et à simuler.
Oui, parce que le but, c'est quand même de trouver une solution en fait à ces équations.
Oui, alors les mathématiciens vont effectivement, quand ils ont un modèle, ils vont d'abord chercher à voir si ce modèle a une solution. Ça peut paraître évident, mais souvent les choses ne sont pas si simples et c'est une première question à se poser. Ensuite, on va dire que dans la plupart des cas, calculer cette solution de façon précise n'est pas un objectif important parce qu'on sait bien qu'un modèle ne correspond jamais précisément à la réalité. Donc savoir si en 2027 on aura 3192 papillons ou 5000, voilà, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est plutôt de voir les comportements, comment la population va augmenter, est-ce qu'elle va se stabiliser, est-ce qu'elle va exploser, c'est-à-dire devenir vraiment très très grande, ou est-ce qu'elle va s'éteindre, et puis spatialement, comment elle va se répartir sur le territoire.
Et justement, avec les avancées technologiques, et avec maintenant on se retrouve avec des supercalculateurs, est-ce qu'il est possible justement maintenant de réaliser des modèles très complexes, justement en utilisant encore plus de facteurs, ou on est toujours limité ?
On est forcément limité, hein, parce qu'une machine, même si elle est très puissante, elle a quand même forcément ses limites aussi. Mais c'est vrai que l'explosion, on va dire, de la puissance des ordinateurs a permis certainement de donner de l'essor à ce domaine de la recherche sur les systèmes d'équations de réaction-diffusion.
Quel est l'intérêt pour les mathématiciens d'étudier ces modèles complexes ?
Alors, l'intérêt pour les mathématiciens, les mathématiciens aiment, on va dire, se poser des défis, étudier de nouvelles équations, de nouveaux systèmes et essayer de les comprendre. L'intérêt aussi pour les applications, hein, il est très important. On a parlé beaucoup de populations animales, donc d'écologie, et les modèles mathématiques sont essentiels en écologie pour comprendre, par exemple, comment préserver la biodiversité. C'est un enjeu très important aujourd'hui. Mais il y a aussi, on a parlé de chimie, et en chimie aussi, on a des enjeux importants pour contrôler les réactions, la température au cours d'une réaction, par exemple, pour contrôler l'émission de polluants, etc. Donc on a vraiment des enjeux forts sur tous ces modèles.
Et vous est-il arrivé de travailler justement sur des sujets de ce type ?
Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai travaillé beaucoup pendant ma thèse sur des applications à la chimie et en particulier sur des réactions de polymérisation pour essayer de comprendre, en tout cas de retrouver mathématiquement des phénomènes qui étaient observés expérimentalement, c'est-à-dire des propagations d'ondes, ce qu'on appelle des fronts de polymérisation. Et j'ai travaillé par la suite sur un modèle de dispersion, enfin de production et de dispersion de polluants dans l'atmosphère avec un système de 20 équations qui correspondaient à 20 espèces chimiques dans le processus de pollution à l'ozone.
Donc 20 équations, ça commence à devenir complexe à ce niveau-là.
Ça devient complexe, mais finalement, c'est une question de structure. Ces équations avaient une bonne structure, et donc à la limite, elles auraient pu être 40 ou 150. On s'intéressait pas finalement au nombre d'équations, puisque la structure permettait de traiter toutes les équations, on va dire, globalement.
Donc en fait, le but de la recherche n'est pas d'augmenter le nombre forcément de réactions, mais de répondre au mieux à ces modèles.
Oui, voilà. C'est vrai que c'est un enjeu souvent difficile de prendre en compte des chimies complexes. Donc il faut à la fois pouvoir trouver des outils mathématiques qui peuvent traiter ces chimies complexes. Et puis dans le cadre de la pollution à l'ozone, une autre difficulté, c'était la diffusion qui était liée en fait à la turbulence atmosphérique et qui se modélise d'une façon un peu différente de celle que j'ai présentée ici, de la diffusion moléculaire, on va dire, normale. Et donc, l'enjeu, c'était de coupler ces deux difficultés-là.
Et au sujet des équations de réaction-diffusion, quelles sont les perspectives de recherche pour le futur ?
Je crois qu'il y a encore beaucoup de travail. Donc, pour les jeunes générations, il n'y a pas de souci pour continuer à se poser des questions sur ce type de système. C'est vrai que la modélisation en écologie, par exemple, hein, c'est quelque chose qui est finalement assez récent et qui se développe très très vite. Et un des enjeux importants, c'est de pouvoir bien comprendre les paramètres critiques qui font passer le comportement qui font passer les solutions du système de réaction-diffusion d'un comportement à un autre. Et la connaissance de ces paramètres critiques est un enjeu important pour comprendre comment dans les applications, par exemple dans le cas de la végétation dans les milieux arides, comment on passe d'une organisation de type brousse à une organisation de type désertique. Et ça peut permettre aussi d'avoir des politiques de prévention pour limiter l'avancée du désert.
Donc vous nous avez bien montré que finalement les mathématiques, on les retrouve partout en fait.
On les retrouve partout. Et je pense qu'il y a sûrement encore d'autres domaines dans lesquels on n'a pas exploré encore de modèles mathématiques, mais ça va se faire dans les générations à venir.
La C'est la fin du Labomatique, merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver en podcast l'émission du jour ainsi que les émissions précédentes sur radiocampusrennes.fr. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour la dernière de la saison. Salut à tous et soyez curieux.